En septembre 1939, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France fait appel, comme en 1914, aux travailleurs et aux soldats venus d'économie. 120 000 soldats environ seront déployés sur le front.
L'engagement des colonies dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale, c'est un point d'histoire sur lequel on insiste depuis peu, surtout depuis le film Indigène. Mais ce qu'on sait moins, c'est que 20 000 hommes venus de la colonie d'Indochine ont été embarqués de force vers la France pour participer à l'effort de guerre et travailler dans nos champs et usines pour un salaire dérisoire. C'est ce que dévoile Pierre Daume dans son ouvrage « Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France » de 1939 à 1952 aux éditions Actes Sud. 20 000 hommes qui auraient dû rentrer sitôt l'occupation, voire après l'armistice de 1945, mais qui ont mis quelques temps à retourner au pays. Pierre Daume a connu ces faits en suivant un conflit à l'usine Lustucru de Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait par hasard, pris dans son enquête, il tombe sur un musée du riz camarguais où apparaissent des portraits d'Asiatiques. Il apprend alors que 300 hommes venus d'Indochine ont lancé la culture du riz en France. C'est cette grande histoire de ces 20 000 hommes qu'il raconte dans son ouvrage à l'appui de documents et de témoignages de Vietnamiens qui ont vécu à cette époque. Ouvrage salutaire dont il sera bien évidemment question dans cette émission.
On commence à connaître l'histoire des tirailleurs coloniaux utilisés par l'armée française dans la Deuxième Guerre mondiale, notamment grâce au film Indigène qui est sorti il y a 2 ans. Et là, en fait, avec mon livre, mon enquête, je révèle un autre aspect ignoré de l'utilisation des peuples coloniaux en temps de guerre, à savoir le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement à l'arrière du front, puisque au déclenchement de la guerre en 1939, d'une part, les usines d'armement avaient besoin de tourner à plein régime, et d'autre part, les ouvriers français étaient eux-mêmes mobilisés au front. Donc, le gouvernement français avait besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire, et elle s'est dit, comme elle se disait depuis des décennies, dans les colonies servent à piocher ce dont j'ai besoin. Alors ça peut être du caoutchouc, ça peut être de l'or, ça peut être du manganèse. Là, ça peut aussi bien être des hommes. Et donc, le ministre des colonies de l'époque a lancé un appel au gouverneur général d'Indochine pour recruter un maximum d'hommes, que ce soit de gré ou de force.
L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser.
Alors combien d'hommes ont été enrôlés pour venir travailler ici en France ?
Finalement, il y a eu 20 000 Vietnamiens, qu'on appelait des Indochinois ou même qu'on appelait souvent à l'époque des Annamites. Donc 20 000 Vietnamiens qui ont été tirés de leur village, c'était tous finalement des paysans. Les volontaires ne se sont élevés qu'à 5% de ces 20 000, donc 95% ont été recrutés de force, avec une règle très simple, à savoir que chaque famille possédant au moins 2 fils en âge de partir, c'est-à-dire plus de 18 ans, devait en offrir un à la France, sinon le père allait en prison. Et donc, il n'y a même pas eu besoin de menacer les familles avec des fusils, etc. C'était les gens obéissaient automatiquement. Et donc, 20 000 hommes ont été recrutés ainsi, mis dans des bateaux, en fond de cale. Ils ont subi une traversée extrêmement pénible. À l'époque, la traversée de l'Extrême-Orient vers Marseille durait au moins 30 jours. Et arrivé à Marseille, le premier accueil qu'ils ont eu de la France, ça a été la prison des Baumettes. Puisque la prison des Baumettes venait d'être construite, elle n'était pas encore utilisée pour des prisonniers, et elle a été donc sa première utilisation, et ça les Marseillais ne le savent pas, sa première utilisation a été pour organiser ces 20 000 hommes en compagnie, et ensuite pour les envoyer à travers la France dans les usines d'armement.
Ce qu'il est important de comprendre, hein, c'est que ces hommes sont venus, alors Parce que la France se préparait à la guerre. Hein. C'est, voilà. Sinon, entre les deux guerres, il n'y a pas eu, une influence de ces hommes indochinois en France. Hein.
Tout à fait. Ce n'est que parce qu'il y a eu le déclenchement de la guerre que ce processus de recrutement a été organisé. Et donc, ce qui se passe, c'est que même s'ils avaient été recrutés de force, ils avaient été recrutés, en principe, uniquement pour servir à l'effort de guerre français. Or, cet effort de guerre français s'est arrêté en juin 40, puisque en juin 40, la France a lamentablement perdu la guerre contre l'armée allemande. Et donc là, dans le contrat moral qui liait en quelque sorte le gouvernement français à ces hommes, le gouvernement français avait arraché ces hommes de leur famille, de leur patrie, mais avec l'idée que ce n'était que pour la durée du conflit. Or, donc, en juin 40, la France perd la guerre, et donc là, le gouvernement aurait dû mettre tout en œuvre pour ramener, rapatrier le plus rapidement possible ces hommes vers leur pays. Des rapatriements ont été organisés, mais assez lents, finalement. À partir de 41, la voie maritime vers l'Extrême-Orient a été bloquée par la flotte britannique. Et donc, il n'y a eu finalement que 4 ou 5 000 hommes qui ont pu être rapatriés, et il en est resté 15 000 sur le sol français. Et alors, qu'a-t-on fait de ces 15 000 ? Eh bien, le gouvernement français a considéré qu'il avait la possibilité de louer la force de travail de ces hommes à toute entreprise public ou privé, sans redistribuer l'argent que l'État percevait en échange de cette location de main-d'œuvre. Et là, on est face à un immense scandale, puisque donc pendant des années, ces hommes ont dû travailler sur le sol français sans être quasiment rémunérés.
Voilà nos deux enfants tout seuls et sans argent, en pleine nature, au seuil de la Camargue, où nous allons les retrouver dans ce 24e épisode qui illustre la maxime « Nul bien sans peine ».
Alors on peut même rentrer dans le détail, hein, parce que vous vous êtes aperçu de cette histoire tout à fait par hasard, en vous promenant et en découvrant qu'il y avait un musée du riz. Alors racontez-nous cette histoire.
C'était à l'époque où donc, j'étais toujours correspondant de Libération. Je devais couvrir un conflit très fort à Arles, à l'usine Lustucru d'Arles, qui était menacée de fermeture. Et donc, cette usine Lustucru était celle qui empaquetait le riz camarguais. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais un peu aller en Camargue voir les producteurs de riz, voir quelles conséquences cela peut avoir pour eux. Je tombe au fin fond de la Camargue, dans un minuscule, c'est même pas un village, c'est un lieu-dit près de Salins-de-Giraud, qui s'appelle Le Sambuc, sur un petit musée du riz privé fait par un camarguais, au fond de sa grange. Je regarde et là, dans un petit coin de la grange, se trouve un panneau qui explique que les premiers hommes à avoir fait pousser du riz en Camargue sont des Indochinois venus en France en 1939 et rien d'autre. Et là, je trouve que c'est quand même un truc absolument incroyable. J'enquête un peu plus et je découvre en effet toute cette histoire, l'histoire de ces 20 000 hommes venus d'abord travailler dans des usines d'armement et à partir de juin 40, ils ont donc été envoyés pour travailler un peu partout. Et 300 d'entre eux ont été envoyés en Camargue avec l'idée que la France commençait à souffrir d'une pénurie alimentaire et donc il y avait eu des essais de culture de riz en Camargue dans les dernières décennies, mais qui n'avaient jamais véritablement abouti et tout avait été abandonné. Et là, un fonctionnaire de l'État français s'est dit « on a sous la main des Vietnamiens qu'on a tirés de leur rizière, donc eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire pousser du riz, on va en envoyer quelques centaines en Camargue et on va voir s'ils savent aussi bien faire pousser du riz que ça. » Et ces hommes ont vécu plusieurs saisons dans des conditions extrêmement difficiles parce que la Camargue, c'est très joli pendant l'été, mais tout le reste de l'année, c'est des moustiques et du mistral. Et ils ont réussi à faire pousser du riz. Et alors là, les masses camarguées qui les employaient, toujours extrêmement peu rémunérées, se sont mis à découvrir l'importance du riz et le prix du riz au marché noir. Et il y a plusieurs agriculteurs camargués qui ont accumulé un début de véritable fortune grâce à ces Vietnamiens. Et aujourd'hui, personne ne se souvient en Camargue de l'apport essentiel de ces Vietnamiens à l'économie et la culture de Camargue.
Depuis quelques années, d'immenses étendues de Camargue, asséchées, irriguées, fertilisées, sont devenues de fructueux greniers à riz.
Donc voilà, vous êtes parti de cette histoire, hein, de cette découverte de ce petit musée. Les Indochinois, donc les Vietnamiens, c'est eux qui font pousser le riz en Camargue, ils y parviennent. Et ensuite, alors, forcément, hein, vous avancez des chiffres, bon, votre travail repose quand même sur des documents précis et des témoignages. Mais parlons tout d'abord des documents et on parlera ensuite des témoignages puisque vous avez retrouvé des personnes vivantes.
Chronologiquement, ça s'est fait cependant dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'histoire du riz en Camargue. J'ai publié un article dans la Gazette de Montpellier et je pensais m'en tenir là. Quelques mois plus tard, je suis contacté par un lecteur de la Gazette de Montpellier qui me dit « Écoutez, mon père a fait partie de ces hommes-là, ça m'intéresserait de vous rencontrer. » Cet homme est un Nîmois, un graphiste. On se rencontre, on sympathise et on part sur l'idée d'un projet de livre, tous les deux, lui s'occupant de l'iconographie et moi du texte. Et avec comme premier objectif, recueillir la parole, le témoignage des derniers hommes encore vivants qui ont vécu cette expérience avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il faut bien comprendre que la plupart de ces hommes sont naturellement morts de vieillesse depuis longtemps. Et que les plus jeunes de cette époque, sont ceux qui sont éventuellement encore en vie, ils avaient, disons, 18 ans en 1939. On est aujourd'hui en 2009, c'est-à-dire 70 ans plus tard. Donc les plus jeunes ont aujourd'hui 88 ans. Et donc j'ai réussi à retrouver 25 hommes encore vivants qui ont 90 ans, 92 ans, 95 ans même. J'en ai retrouvé 11 en France et 14 au Vietnam. Et donc, mon objectif premier était de recueillir leurs témoignages. Et l'idée était de raconter cette histoire à partir des témoignages. Et c'est là où j'en viens aux documents. Puisque très vite, je me suis dit que vis-à-vis de mon futur lecteur, j'avais besoin, en quelque sorte, d'étayer la véracité des propos souvent incroyables que me racontaient ces hommes. Et je me disais que mon lecteur pourrait, à juste titre, se poser la question « Mais est-ce que ces hommes racontent-ils vraiment la vérité ? Ils sont aujourd'hui très vieux, ils peuvent avoir des problèmes de mémoire. » Les faits remontent à plus à 70 ans. Et bon, et ce qu'ils racontent, c'est parfois tellement terrible que peut-être qu'ils en rajoutent. Et donc, je me suis dit, là, il faudrait que je fasse des recherches archivistiques pour confirmer ou infirmer, le cas échéant, les propos et la véracité des propos de mes 25 témoins. Et donc, j'ai commencé à rechercher des archives. Je suis allé évidemment au centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, qui rassemble toutes les archives des anciennes colonies françaises. Je suis allé à Marseille, aussi aux archives de la Chambre de commerce, qui rassemble toutes les archives des anciens bateaux vers l'extrême-orient. Je suis allé aux archives nationales à Paris. Et là, à chaque fois, chaque archive que je retrouvais confirmait parfaitement les propos, les récits que m'avaient rapporté ces vieux témoins.
Voir en cause dans ta chose avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie. Les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu, y a même l'amour, c'est curieux.
Alors, ben, parlons des personnes que vous avez rencontrées en France. C'est 11 Vietnamiens donc, qui sont venus donc à cette période, en 1939, là, pour travailler en France, pour rien. La question que je me pose, c'est pourquoi ils sont restés, eux, en France ?
Déjà, les chiffres. Sur les 20 000 hommes du départ, il y en a 1000, et seulement 1000, qui ont finalement décidé de rester en France. Il y en a 18 000 qui ont fini par être rapatriés, donc chez eux, et le millier restant, ce sont les morts pendant cette période. Alors, les motivations des 1000 qui sont finalement restés en France sont quand même extrêmement majoritairement pour des questions de rencontre avec une femme française, puisque donc pendant toutes ces années, ces hommes ont pu avoir quelques contacts avec la population française, même s'ils étaient parqués dans des camps. Il n'empêche que tous les matins, ils sortaient du camp pour aller travailler, et donc ils pouvaient croiser des gens. Et le dimanche, ils avaient la possibilité de sortir un peu sur la place des villages. Et le fait est que j'ai d'ailleurs tout un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Amour en temps de guerre ». Le fait est que dans cette histoire qui est plutôt douloureuse, il y a quelques rayons de soleil qui viennent des rencontres amoureuses entre ces jeunes hommes et des jeunes femmes françaises. Et visiblement, au fil des récits, j'ai fini par avoir presque la conviction que ces Asiatiques étaient très attirants pour une certaine jeunesse française. Ils étaient le charme de l'exotisme. Ce sont des hommes qui expriment toujours une certaine douceur. Et j'ai vu certaines photos. Il y avait de très très beaux hommes. Et le fait est que donc des relations amoureuses se sont nouées, qui d'ailleurs dans un premier temps ont été interdites et sévèrement réprimées par le personnel encadrant des camps dans lesquels donc ces hommes étaient parqués. Et ce n'est qu'à partir de la libération 44-45 qu'ils ont eu le droit d'officiellement avoir des petites amies françaises et éventuellement, pour certains d'entre eux, de se marier. Et en fait, les 1000 qui sont restés sont ceux qui ont finalement décidé de se marier avec une Française.
Voilà qu'il y a des histoires heureuses dans cet ouvrage de Pierre Dôme, Immigrés de force aux éditions Actes Sud. L'histoire de ces 20 000 Indochinois devenus après l'indépendance vietnamiens qui ont été envoyés de force en France pour participer à l'effort de guerre dans nos usines et nos champs, puisque si l'on mange du riz national de nos jours, on le doit à 300 de ces hommes et leur travail acharné en Camargue. Dans la seconde partie, nous parlerons de trois destins singuliers, l'un qui est devenu chef de plateau à Europe 1, un autre peintre mondialement connu, et un autre encore réalisateur de documentaires.